Tu sais que maintenant, en fait, au final, je crois que je joue avec quoi ? Deux tiers de ce que t'as fait en termes de cartes et au moins un tiers de ce que j'ai modifié et rajouté moi.
Et tant mieux, et c'est ce que je disais à Vincent tout à l'heure.
On fait le podcast, en fait, déjà.
Ah oui, c'est ça, en fait. C'est déjà enregistré.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va ? Bonjour à tous et à toutes.
Mais pourquoi tu prends pas ?
J'ai un coup de gueule à pousser.
Bonjour. Qu'est-ce quoi ?
Nous devons dire stop à l'oppression. Ah oui. C'est quoi ? Le pauvre Adrien Cahuzac est fréquemment ostracisé au sein de la cellule.
Ah bon ?
Effectivement, il a raison. Au nom des cellulaires du Sud, nous ne devons pas dire jeu de rôle, mais jeu de rôle.
Ah putain. Tu voulais commencer comme ça, vraiment. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui avec Vincent Maviel qui dit jeu de rôle. C'est son problème.
Bonjour.
Alors là, tu exagères. Nous sommes également avec Maxime Victor. Maxime, bonjour.
Bonjour, qui dit jeu de rôle ?
Qui dit jeu de
rôle ? Parce que la Paris, donc la France, dit jeu de rôle.
Ça, c'était dans le sketch avec les chocolatines et pains au chocolat sur Star Wars 3, je crois.
Oui, je crois en plus.
Oui, ça me semble bien.
Paris, donc toute la France dit pain au chocolat.
Les trucs trop forts de Star Wars 3 refait, des trucs énormes sur le programme de Mélenchon et tout.
Oui,
je vous invite à aller les voir.
Oui, j'avais
un programme clair et des idées novatrices s'en sont chargées. Bref, on change complètement. Antoine Morgenthaler.
Bonjour, bonsoir.
Ça va la pêche ?
Ça va, c'est la pêche, la pêche.
Ça me fait très plaisir de vous recevoir tous les trois pour parler d'un sujet qu'on a trop peu abordé. Celui de Vadémécom indirectement, parce que c'est un podcast pas uniquement sur Vadémécom ce soir, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu.
Ouais, en grande partie, je pense, parce que c'est lui qui m'a inspiré l'idée. Donc, voilà.
Enfin,
donc,
ça va être l'exemple principal, mais on
va
pouvoir élargir.
Ça va être l'exemple principal, mais on pourra l'élargir sur Sens, entre autres.
Oui.
Et voilà.
Peut-on rejouer des jeux à secret ?
Oui, merci, bonsoir.
Et alors,
c'est tout pour moi, merci beaucoup.
Je voudrais juste introduire le podcast.
Avec
par une réflexion personnelle. Mais son consentement, t'es con. Par une réflexion personnelle. Putain, comment veux-tu faire avec ces gens-là ?
C'est que. Podcast bombe !
Moi, merci Morgane. Moi, franchement, pour moi, Vadémécom, c'était un burst. C'était un jeu qu'on ne pourrait faire qu'une seule fois. J'étais parti dans l'idée que je ne playtesterais pas mon propre jeu parce que je pensais que c'était impossible. Donc, je suis parti de l'idée que je n'allais même pas jouer à mon propre jeu pour. Et non, mais c'est une révolution pour moi. Parce que pour moi, faire ça, c'est le mal, tu vois. Ne pas playtester son propre jeu avant qu'il ne sorte, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment quelque chose de pas bien du tout. Or là, voilà, j'étais obligé de le faire parce que je pensais que ce truc des révélations, c'était le cœur du design du jeu. Et donc le côté secret en fait, et que si on savait les secrets, on pouvait pas jouer à Vadémécom. Donc du coup, moi, en tant que MJ qui avait écrit les secrets, moi j'en ai marre d'avoir l'écho, c'est insupportable. Eh bien, je ne pourrais pas, clairement pas, jouer à ce jeu. Et vous allez sans doute, vous m'avez sans doute montré le contraire. Et c'est ce que vous allez faire ce soir, j'imagine, montrer que
j'imagine,
c'est possible.
Ouais.
Alors comment vous avez réussi cette prouesse de faire jouer à Vadémécom ? Qu'est-ce que ça fait de rejouer à Vadémécom quand on connaît déjà les secrets ?
Ouais, bah je pense que je peux commencer parce que l'expérience que j'ai eue avec ça, elle est multiple. Parce que déjà moi j'ai playtesté à l'origine Vadémécom sur une version qui est pas du tout la version définitive.
Oui, c'est vrai.
Donc ce qui est
la version appelée Energy 12.
La version Energy 12 de Vadémécom, on spoilera pas là. Bon, en même temps si on va être full spoiler hein, sur ce.
Wow, tu peux spoiler la fin d'Energy 12.
Ouais, la fin avec des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres.
Alors à la fin, on trouvait une fusée qui nous faisait
décoller dans la base
sur la lune, la face cachée de la lune. Non, il y avait pas une histoire.
Je crois que c'était la base spatiale de l'armée noire dans mon souvenir.
Ah oui, c'est ça.
Genre l'armée noire avait un ISS autour de la Terre.
Oui, c'est vrai.
Et quand on bat la dame noire avec King qui vole dans l'espace avec elle, Jésus arrive et dit ah ah ah, je vous ai bien niqué. Et en gros, ma race va pouvoir envahir la Terre et des dizaines de vaisseaux spatiaux apparaissent dans l'espace. Rome était fier de lui et nous avons pouffé de rire. Je crois que j'ai même pleuré de rire.
Oui. Mais c'était une référence à Moonraker.
Voilà, et Rome a été un peu déçu de voir que ça nous. Je crois que c'est la première fois qu'après ça, j'ai pris le temps de réfléchir. Je crois que j'étais dans la barreau, j'étais pris dans un couloir et je t'ai dit Rome, tu peux pas faire ça. Et genre, je crois que je t'avais jamais donné de conseils vraiment sur l'histoire de tes jeux. Mmh. Et là, ça a été là, je t'ai dit.
Non, là, peux... ça, c'est pas possible.
Et, on a été tous. J'ai dit, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est... Là, non.
On sait que tu as mauvais goût, Romaric, mais voilà, n'impose pas tes mauvais goûts à tout le monde.
Non, c'était un jeu qu'on avait déjà galéré à rentrer dedans. On avait réussi à trouver notre truc sérieux. À la fin, les personnages, ils résolvent des enjeux dramatiques forts.
Ouais.
Il y a de l'émotion. Tu peux pas gâcher ça comme ça.
Non.
C'est
non, en fait, bon, je vais être honnête avec toi, Maxime. La fin n'était pas écrite à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais plein de fins possibles, plein de fins ouvertes possibles. Je n'avais écrit parce que le jeu s'est écrit au fur et à mesure des scénarios. Il y a d'abord le premier scénar, puis le deuxième scénar, puis une troisième scénar. Donc c'était un empilement en fait de scénarios. Et j'avais pas écrit le dernier. Donc en fait, l'idée c'était de playtester plein de fins possibles. Évidemment, cette fin n'était pas vraiment sérieuse. J'avais dans l'idée qu'à un moment donné on trouverait une fusée. Et ça, ça a été conservé.
Voilà,
ça a été plus ou moins conservé dans le jeu, mais pour d'autres raisons. En tout cas, je voulais une dimension spatiale et compagnie.
Et du coup, quand j'ai relu Vademécum après l'avoir reçu, déjà, j'ai été très surpris de tout ce qui avait changé. J'avais qu'une hâte, c'était de le faire jouer. Je l'ai fait jouer, moi, j'en suis... Il faudrait que je compte, mais je dois avoir fait 5 campagnes.
Tu l'avais fait jouer tôt, toi. Déjà dans les tout premiers podcasts de débrief sur Vademécum, tu faisais partie de ceux qui avaient déjà joué deux ou trois fois à ce moment-là.
Ouais, je l'ai fait jouer beaucoup. Je l'ai fait jouer même avec des. En fait, je l'ai fait jouer à un panel varié. Je l'ai fait jouer avec des gros rôlistes. Je l'ai fait jouer avec des gens qui découvrent. J'ai fait découvrir le jeu de rôle à des gens que je connais à peine comme ça. Je l'ai fait jouer à des élèves. J'avais un club de jeux de rôle au lycée, donc des élèves de terminale ont joué ça.
Ah ouais.
Et ils se sont vraiment amusés. Et c'était vraiment très différent. Je l'ai fait jouer du coup à Antoine, Céline et Luca. Et du coup, à force de le faire jouer, j'ai amélioré en tant que MJ, faire rejouer le jeu est intéressant parce que chaque table est unique. Vraiment.
Ouais, je suis d'accord.
Et j'ai moi-même amélioré le jeu, j'ai pimpé le jeu en rajoutant des échiquiers, comme on l'a vu sur le site, en rajoutant des compétences, en modifiant des compétences en fait.
Ouais.
Beaucoup, parce que je l'ai trouvé déséquilibré, problématique sur plein de points. Bien sûr. On est d'accord, enfin chacun fait sa sauce. Hein. Et en fait, moi, le rejouer, c'est la première fois que je l'ai rejoué. J'ai playtesté Vadé Rétro.
Alors.
Et ouais. Ensuite, j'ai rejoué là, je suis en train de rejouer Vadé Rétro. Mais là, pour la première fois, je joue. Oui, c'est ça, je joue Vadé, mais comme. En tant que queen, sur la table de Vincent, qui est à côté de moi.
Voilà, parce que j'allais dire, oui, rejouer à des jeux à secret en tant que MJ, j'ai envie de dire easy boy.
Mais en tant que joueur.
Mais en tant que joueur, c'est ça la question.
C'est hyper intéressant. J'ai joué Bishop à l'époque, sur ta table Rome, et j'ai eu un certain pan du jeu, donc je voyais très bien le côté enquête, maelstrom en termes de plot, et la découverte de problématiques. Et en rejouant Queen sur la table de Vincent, je me suis dit oui, bon bah je vais être demi PNJ, voilà, et je me fais surprendre. C'est-à-dire que le fait d'avoir certains éléments
là,
hors
tu
jeu
me surprends.
Ah mais je suis complètement, je là, réalise avec vraiment. Vincent à chaque scénar des nouveaux trucs sur Queen.
C'est un truc de fou ça.
Parce qu'il y a des trucs de fou entre le conceptualiser théoriquement. Ah ouais, c'est un personnage qui va se poser des questions sur son humanité. Et le vivre émotionnellement, c'est, je sais pas comment ça se passe, mais moi je suis sur le cul de ressentir à chaque fois ce côté. Eh mais merde, ça veut dire que ce souvenir il est pas de moi, tu vois. Et je le sais en jouant le jeu. Il n'empêche, je réalise, et quand je vois le King, comment il réagit en face de moi, selon comment il joue.
Donc, c'est quand même incroyable, t'es en train de me dire, je suis MJ de Vademécum, donc tu connais tous les secrets, t'as modifié le jeu, c'est-à-dire que tu es, on peut dire, MJ expert de Vademécum, tu vois, t'as vraiment fouillé le jeu, creusé le jeu, t'es arrivé au fond de la piscine, et tu me dis, et jouer à ce jeu, en ayant creusé et en étant allé au fond de la piscine, ça reste intéressant parce qu'il y a une différence entre théoriser en fait l'existence d'un personnage... et effectivement devoir le jouer effectivement à la table.
Exactement.
Ce
soir. C'est-à-dire que rien que la scène 1, scène des cuves, je maelstrom différemment d'un joueur qui joue Queen normalement parce que je vois les pions noirs, je sais qu'ils ont qu'un PV. Ça, c'est un truc qu'un joueur normal ne sait pas.
Ouais. Bah, oui,
déjà,
oui, c'est vrai. Ouais,
tolérer une Crucem, je tue les 3. Ou quasiment, non, j'en ai tué 2.
Oh, putain, que tu saches ça, ça fait que tu joues différemment.
Il y en a un qui s'approche de moi. Je sais qu'en termes de capa d'attaque, à ce moment-là, j'ai toutes les chances de le buter avec une attaque. Bah, je le bute avec une attaque. Et là, déjà, je joue complètement différemment. Je suis seul avec les cuves autour de moi. Et je regarde des femmes. Et là, je rentre en empathie avec elles. je suis à poil, je me dis que je suis flic. Et là, je joue une queen qui est en mode, je suis une flic, je suis une meuf, je vois plein de meufs à poil autour de moi. Ok, je dois partir, mais je reviendrai vous sauver. J'en ai même sorti une d'une cuve pour la traîner dehors et la sauver.
Oh, c'est génial. En tant que master, t'as très, très peur à ce moment-là.
Oui, oui, la question, c'est ça aussi. C'est
Après, moi aussi, je connais bien le jeu. Hein. C'est ma sixième table de Vademécom. Donc, je me sens à l'aise pour improviser ou quoi. Je sais que Maxime cassera pas une table parce que voilà.
Parce que c'est pas dans son intérêt.
Mais par contre, vraiment, ce qu'il y a d'intéressant pour moi aussi, c'est qu'il y a un challenge. C'est que quand tu maîtrises Vademécom plusieurs fois, tu sais à quel moment les choses arrivent. Tu sais que toutes tes tables sont différentes, mais globalement, la campagne reste la même, quoi. L'histoire, elle change pas beaucoup. Alors que quand tu as des joueurs qui sont capables d'orienter des discussions, qui sont capables de générer du maelstrom, mais au bon moment, parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là que c'est intéressant, non seulement Maxime, on l'a entendu, hein, je pense qu'il kiffe, mais en plus, ma table, tous les autres joueurs kiffent deux fois plus, alors que c'est une table qui est super éclectique. On a Maxime qui est vachement rompu, on a un autre
Fabien
joueur
qui avait commencé Vademécom il y a 2 ans, qui a pas pu finir la campagne sur ma table. Non, il y a 3 ans d'ailleurs.
Qui l'a joué avec toi en plus.
Et qui reprend le personnage de King en ayant tout oublié parce que ça fait trop longtemps. Et qui joue un King différent, mais avec moi ce coup-ci. Et on a un rôliste tradi vétéran et une pour qui c'est son premier jeu de rôle.
Ben, c'est la raison de cette table, puisqu'elle nous a dit j'aimerais bien que vous me fassiez tester le jeu de rôle. Et c'est génial. Et je kiffe. Vraiment.
Antoine, t'as des commentaires peut-être déjà à ce stade, parce que moi j'ai plein de commentaires qui m'arrivent là.
Bah, j'ai plusieurs idées qui me viennent. Après, déjà, un truc que je pensais avant, c'est qu'il y a forcément des choses, Maxime, dans le fait de rejouer une intrigue que tu connais, etc. Il y a des éléments que tu perds en termes de surprise, en termes de convergence.
Oui.
Mais il y a aussi des choses que tu gagnes en termes de pertinence sur tes propositions, en termes d'ironie dramatique. C'est plus de la convergence, mais t'as un recul là-dessus. Donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Mais effectivement, le côté MJ aussi. Et ça, tu m'en as parlé parce que moi aussi, j'ai rejoué Vademécom en tant que joueur à la table de Maxime.
Ouais.
Et du coup, je pense que toi aussi, Maxime, tu me disais qu'il y avait des moments où il y avait quelque chose de rigolo dans la complicité avec moi, du fait que je connaissais les secrets et compagnie, mais aussi un challenge un co-challenge pour nous deux, de gérer le rythme pour autant et de gérer plein de trucs. Et c'est intéressant d'avoir ce côté-là. Et donc, je pense que pour un MJ, c'est très rafraîchissant d'avoir un joueur comme ça à la table aussi.
Complètement. Vincent. Et puis, c'est du travail aussi pour le surprendre.
Ah oui.
C'est du plaisir pour le surprendre. Et en même temps, ça délègue la responsabilité. Parce que je me dis, il y a au moins une autre personne à la table qui va m'aider potentiellement à orienter le jeu dans le sens dans lequel il est pensé. Parce que cette personne a déjà lu le jeu.
Ça m'inspire tellement de trucs. Est-ce que ce serait... Alors là,
ça horizontalise le jeu à secret.
Ouais, non, mais j'ai... Enfin, là ça, vous êtes en train de tellement m'exploser la tête. Premier élément de commentaire que j'ai envie de faire, c'est ça me fait penser à un livret de théâtre. C'est-à-dire, en gros, vous savez, Vademécom, maintenant, c'est tellement... En fait, quelque part, c'est tellement scripté, c'est tellement codifié comme jeu, que du coup, on sait exactement qui va faire quoi, qui va découvrir quoi, quand, comment, etc. Qu'on peut s'amuser maintenant à jouer le metteur en scène, à aller sur les subtilités du metteur en scène, les subtilités de l'acteur qui prend un livret, qui le fait sien et qui l'interprète. En fait, je me demande si vous n'êtes plus vraiment en position de joueur, mais plutôt en position d'interprète des éléments.
Alors, c'est complètement une démarche possible, mais Antoine, dans mon cas, c'est pas l'élément central que j'ai ressenti. J'étais pas, c'est excessif pour moi de parler vraiment de metteur en scène à proprement parler, parce que c'est pas non plus, les scènes sont pas scriptées. Et justement, moi, parmi les choses qui m'ont, pour Vademécom, pour moi, ce qui a été le plus intéressant en jouant à cette table une nouvelle fois, c'est que j'étais King, je connaissais King, je savais où il allait, ce qui allait se passer. Ouais. Mais en face de moi, j'avais un bishop et j'avais une queen qui étaient chacun un bishop et un queen unique, avec les interactions avec eux, avec les dialogues, avec les réactions particulières. Et par exemple, le fait que je sois moi je suis arrivé en cours de route pendant la campagne, en remplacement d'une autre joueuse qui pouvait plus participer à la table. Du coup, je suis arrivé au milieu, un peu plus du milieu, grosso modo. Il y avait
milieu de l'acte 3.
Ouais, c'est ça.
Donc milieu du jeu.
Et du coup, j'étais un king différent de ce qu'ils avaient jusque-là. Donc du coup, ils ont dû un peu aussi resituer leur relation avec ce king qui se comportait différemment. Mais du coup, en fait, il y avait des éléments qui me surprenaient pas, que je découvrais pas. Mais ce bishop là m'a surpris, cette queen là m'a surpris, et Maxime aussi s'est amusé évidemment à rajouter des surprises aussi pour moi, mais pas que, pour le faire plaisir aussi. Donc en fait, le ski ne surprend pas, mais il y a quand même des surprises qui persistent. Et notamment, et j'en parlerai avec la fin du jeu, j'ai quand même été, à la fin du jeu, j'étais assez émotionnellement impliqué. J'étais pas froid en mode metteur en scène, en mode.
Oui, d'accord, ok. Ouais.
Donc, c'est ce que tu dis, c'est complètement possible, mais en fait. Pour peu que les, je pense que si tout le monde est, et si les, tout le monde connaît déjà les secrets, on aura une table de metteur en scène. Si jamais il y a un joueur et plein d'autres qui découvrent, c'est un co-MJ. Mais de la même manière qu'un MJ dans certains dispositifs peut quand même s'impliquer dans ses personnages,
oui,
pas mal.
Fait,
mais
un raison,
MJ n'est pas un acteur ou un metteur en scène avec ses PNJ. Pour peu que les PNJ puissent, il peut s'y impliquer un peu, il va quand même avoir une ou un chouïa de convergence ou pas de quoi. Et donc dans mon cas, il y avait pas ce côté-là.
Moi, Maxime,
c'est hyper intéressant en tant que queen de découvrir la violence quand tu arrives au commissariat et que tu dis bah je suis flic et que les gens te disent bah non, on te connaît pas, on sait pas qui t'es et qu'au début ils me refusent de me filer un pare-balles, ils me refusent de me considérer comme. Et moi, ça, tu vois, je suis là en mode mais merde, et j'étais vraiment en colère en tant que joueur, je suis là mais je veux mon pare-balles, je veux mon flingue, je veux des trucs cool et en tant que. Même les côtés ludistes. Que tu te dis, je les connais en tant que queen, je sais que je suis bloqué par le jeu, et bah n'empêche, j'étais en convergence, j'étais pas content que les autres me considèrent comme ça, et je reste surpris en permanence. Et quelque part, je vais peut-être prendre de l'avance sur le podcast, mais libéré de l'aspect secret, je peux me contenter du jeu narratif et de la convergence, en fait, d'être vraiment genre, je suis dans le perso, je me prends plaisir juste à jouer, on s'en fout de la découverte, on s'en fout de l'enquête, on se débarrasse du ludisme, en fait, quelque part. Sauf pendant les combats, parce que...
Mais du coup, est-ce que tous les persos sont jouables comme ça? Parce que là, vous parlez beaucoup de Queen, en fait. Mais bah, par exemple, Bishop, dont
King.
Le centre est dans
l'enquête. Moi, j'étais King quand j'ai rejoué.
King aussi, je trouve. Donc, que c'est un personnage qui se passe.
Mais c'est quand même très différent. Hein.
Par exemple, Bishop, c'est un personnage d'enquête. Si t'as pas les révélations au fur et à mesure, est-ce que c'est intéressant de le jouer? Avec les relations avec sa femme.
Il y a la relation avec sa femme, il y a la façon dont il gère sa relation.
Ça pourra justement être un Bishop assez surprenant, assez inhabituel dans la façon dont il va jouer. Après, et sur l'aspect ludique de l'échiquier, c'est sûr que rejouer, mais avec un perso différent, c'est comme un jeu de plateau. Tester une autre classe et donc là il y a un renouvellement.
Et il y a un autre truc dans Vadémécom, excuse-moi Vincent,
Maxime puis Vincent.
Il y a un autre truc, il y a les problématiques. Et ça, t'as beau les connaître vite fait. Ouais. Quand est-ce qu'elles vont sortir dans une table, aucun joueur, aucun MJ peut le prédire. En tant que joueur, je pourrais les apporter de force, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, ces gens, je peux éventuellement déclencher une discussion sur un truc ou éventuellement rebondir, mais alors. Je reste surpris de quand est-ce que les gens vont aborder quel sujet. Et d'ailleurs, ça fait des tables où, bah, nous, les problématiques, ça a fusé. Et alors que moi, en tant que joueur, je tentais de ralentir. J'ai tenté, en tant que joueur, de les orienter vers des fausses pistes en me disant, c'est pas drôle s'ils découvrent tout trop vite. Et, et malgré tout, ils étaient mais inarrêtables.
Pour donner un exemple,
Vincent.
Après la scène chez les parents de King, ils sont retournés au commissariat. Jusque-là, rien de très surprenant. On a eu 3h30 de conversation. IRL, ils ont fait du roleplay pendant 3h30 et j'ai lâché 8 problématiques à ce moment-là. Pas révélation ou quoi, mais des problématiques et qui ont surgi, comme dit Maxime, enfin, il n'avait pas particulièrement essayé. Mais il y a une chose quand même, je pense, c'est qu'il y a un gars que je connais un peu qui avait théorisé qu'en jeu de rôle, il y a un phénomène qui s'appelle le maelstrom. Et à partir du moment où tu pars du principe que le jeu de rôle, c'est un récit collaboratif, si tu changes un des termes du récit, tu changes l'ensemble du récit.
Oui.
Du coup, quand tu le rejoues avec d'autres joueurs, tu découvres encore des tas de choses parce que les relations interpersonnelles ne sont pas les mêmes. Mais c'est comme toi, quand tu maîtrises plusieurs fois le même jeu, c'est pas deux fois le même. Et c'est la même chose au niveau des joueurs. À un autre niveau, mais c'est la même chose.
Parce qu'il y a un plaisir Maxime. Intrinsèque à l'incarnation d'un personnage, en fait.
Ah là là.
Et contrairement à ce que pas mal de monde, je pense, peuvent penser, hein, y a un, même dans Vadémécom, même dans un jeu d'enquête, il y a un plaisir intrinsèque à ça. Je pense que c'est peut-être aussi parce que, je sais pas, je suis GNiste, j'aime jouer des PNJ, mais vraiment, juste rejouer un personnage, juste pour le plaisir de la scène, n'est absolument pas un problème pour moi. Et alors, je sais plus, j'avais un autre point.
En fait, il y a un premier truc que ça m'inspire, c'est qu'à la sortie de Vadémécom, tout le monde avait bien vu, bien théorisé, qu'il y avait un problème de GNS dans Vadémécom. Et on le disait rapidement en disant il y a le ludisme de l'échiquier qui peut mener à un concours de quéquettes stratégique sur qui a la meilleure façon de gérer les échiquiers, d'aller le plus vite possible, d'optimiser ses compétences, etc. Et de l'autre côté, une dimension beaucoup plus narrativiste ou simulationniste où on joue, on est dans le drama, on est dans les personnages, etc. etc. Le ludisme aussi était et se voyait dans l'acquisition des révélations. Il n'y avait pas que l'échiquier. À ce titre-là, on avait aussi théorisé le fait que, comment dire, on peut avoir le droit, obtenir le droit de se vanter d'être le premier à avoir trouvé telle ou telle révélation. Là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a désamorcé l'une de ces dynamiques ludiques en supprimant complètement l'aspect secret et échiquier, finalement.
Oui, parce qu'en fait, même dans l'échiquier, quand tu sais que la règle méta dit qu'on va y arriver dans tous les cas, en tant que joueur, tu peux, comme moi qui avais ce problème, qui avait dysfonctionné dans le playtest qu'on avait eu avec Rome. On avait dysfonctionné parce qu'à la table, il y avait deux PC et deux joueuses. Il y avait. En fait, il y avait.
Il
y avait Darky, Flavie, d'ailleurs, qui avait rejoué à ce moment-là, oui. Donc elle pourrait en parler.
Ouais. Elle aurait voulu être là, d'ailleurs, pour ce
dommage. Podcast. Il y avait Darky, Flavie. Morgane et moi. Morgane et Flavie, quand il y avait l'échiquier, elles en avaient rien à battre de l'optimiser. Elles jouaient pour le plaisir de jouer. Surtout que Morgane, elle avait King. Donc, optimiser l'échiquier, King, il s'en fout. Moi, j'avais Bishop. Donc, non seulement, t'as Maxime, qui est une calculatrice vivante, tu lui files un PC avec des cases, un jeu de plateau avec des systèmes de 1, 2, 3, avec des trucs à compter. Ouais. Moi, je joue un pion, quoi. Je joue pas Bishop, je joue un pion. Et Darky, pareil, il jouait pas Knight, il jouait un pion. Et donc, on avait des conflits interpersonnels parce que moi, Maxime, voyait Flavie faire n'importe quoi en termes d'optimisation et Morgane faire n'importe quoi en termes d'optimisation. Et Darky, pareil, on les voyait.
Et ce problème-là, il est résolu du fait que vous ayez déjà joué ?
Eh bah oui, parce qu'en fait, je sais de manière méta que de toute façon, Vincent, au pire, il va mal jouer pour qu'on gagne quand même. Déjà.
Mais du coup, ça rend pas les échiquiers complètement nazes.
Non, parce qu'en fait, je peux jouer avec pour le plaisir du beau jeu. Pour le plaisir de faire le bon coup sur l'échiquier.
Prime de style.
En performance style, ouais. Et pas en optimisation. Et, ouais, c'est un peu différent. C'est pas du speedrun, c'est du super play, quoi.
Je fais du super play. Genre, être avec Queen et arriver et faire le bon combio au bon moment. Me mettre devant, prendre des baffes, c'est pas grave. Genre, je me suis pris des tomahawks de Henry Ward dans la gueule. Et c'est pas grave, en fait, parce que je suis pas. J'ai pas le. Maxime n'est pas en stress de perdre le jeu.
Ouais, je comprends.
Et ça me soulage, en fait. Du coup, c'est pas grave si j'en prends plein la gueule. C'est pas grave si mon personnage est couché. Je sais qu'on va gagner quand même. Mais c'est important, peut-être, je pense qu'il n'y a qu'une personne autour de la table qui le sache.
Alors peut-être une limite aussi.
Après, moi, même en sachant ça, il y a un combat où j'ai quand même eu peur qu'on perde.
Oui, c'est vrai. Ah oui, parce que je les ai défoncés. Hein. Je les ai défoncés et j'étais prêt à les faire perdre.
Donc c'était sur la table de Maxime, Antoine ?
Ouais. Oui.
En fait, il va nous faire perdre et on va perdre, quoi. Enfin...
Non, alors évidemment, on n'allait pas avoir les conséquences trop graves, c'est-à-dire retourner au commissariat, perdre 2 heures et les trucs juste qui sont ennuyeux.
Ouais. Mais le dernier combat, donc ça aurait été con
truc,
quand même.
Non, c'était, je pense, oui, c'est vrai que le dernier combat, je pense que j'ai ressenti le plus. C'était les jumelles, on en a chié aussi. Les jumelles, ça a été tendu. Mais en fait, je pense qu'il y a une grande part de.
C'était le juge de fer, plutôt.
Que ça soit sur. Ouais, le juge de fer aussi, ça faisait mal. Que ce soit sur
en
le
fait, tout bref. Fait mal avec toi,
en fait,
Maxime.
En fait, comment dire, déjà, on est 3, il n'y a pas 4 joueurs, et de base, le jeu est plus dur à 3 qu'à 4, même avec l'avantage des pions. Et en fait, je pense que ça fait partie de enfin, en tout cas, je lance ça comme ça, je sais pas personnellement, ça fait partie de parmi les choses que tu fais de base en tant que joueur de jeu de rôle, la suspension consentie d'incrédulité spécifique au jeu de rôle, elle passe en partie par une auto-illusion. À base de dans Vadémécom, il y a des gens qui devinent qui en jouant que tu peux pas vraiment perdre, quoi.
Oui.
Qui parce que ils se rendent bien compte que ce serait trop punitif, trop chiant, donc ils sont pas vraiment en tant que genre réellement de sentiment de danger, mais il n'empêche que si le jeu est bien conçu et qu'il y a des choses qui sont violentes et punitives, etc., bah tu vas quand même avoir un sentiment, t'auras pas un sentiment rationnel de non mais clair, on va perdre le combat, mais t'auras quand même un moment de putain, mes deux alliés sont au sol, merde, quoi. Ouais. T'as quand même cette émotion là, en fait.
Ouais, tout à fait.
Ou en tout cas, t'arrives à t'en convaincre, et c'est convaincre, essentiel.
Et en fait, ce que je ressentais, Maxime, moi, c'est que, sachant que la montre et l'échiquier sont pas un problème, le sentiment d'urgence, il est intrinsèque aux motivations de mon personnage. Et il est intrinsèque à l'histoire. Et plus le fait que le MJ me dise « Vous avez 24 heures » ou « L'échiquier qui me fait peur de perdre », c'est mon personnage de Queen qui se dit « Je dois aller sauver ces meufs, il faut qu'on y retourne vite. Putain, ma famille est impliquée, il faut que j'aille protéger ma famille vite. » oh putain, les États-Unis sont en danger et ouais, moi, d'accord. Il faut que j'y aille vite. Et en fait, tout ce que tu as mis en fait pour soutenir, qui est important en vrai.
Mais oui, oui,
parce que s'il n'y a pas ça,
bien sûr. Bah, je l'ai pas fait au hasard non plus, hein, les voilà, gars.
Tu l'as pas fait au hasard et mais c'est important.
Mais je suis quand même surpris que vous puissiez jouer en connaissant tout, vraiment. Je suis quand même assez surpris que ça puisse être aussi fonctionnel.
Moi, je m'éclate. Je te dis, il y a des trucs, je m'attendais pas à ressentir ça. Quand j'arrive devant mes parents et que je sais pas comment ils vont réagir, quand je suis avec King et qu'il évolue au fur et à mesure du jeu entre au début rejet, genre dès que je parle de mes souvenirs, il m'a rejeté, il a été agressif avec moi, et j'ai été pas content et j'ai été hyper surpris, genre Knight qui montre de l'empathie et de la gentillesse envers Queen.
Ouais.
Moi, j'ai la première fois en tant que Queen, du coup, je me suis tourné vers Knight et je me suis jeté là-dedans dans le fait que putain, une personne me montre dans l'empathie, cool. C'est la première fois que je vois ça et Maxime est surpris de ça aussi. Et je kiffe. Et au fait, King dans notre partie, il a changé d'avis, il commence à se rapprocher et je me mets à vraiment et je joue à fond les scènes d'introspection aussi pour
bah oui.
Pour
l'introspection, tu peux faire du très 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 lourd. Moi, je n'ai fait que une, mais vraiment, j'étais en mode, elle était parfaite.
Parce qu'en plus, comme tu connais en fait les révélations, la suite et tout, tu peux faire de la scène d'introspection taillée.
Il y a une autre utilité qui est Max. Qui évite les erreurs d'interprétation.
C'est-à-dire
genre la problématique sur, enfin le coup des souvenirs de Queen et King où genre il y en a un qui se souvient que du père et l'autre que de la mère. J'ai jamais vu une table en six tables qui comprend. Je pense que c'est mal écrit, qu'il y a un truc qui fait que c'est trop anecdotique dans les fiches des uns et des autres, qui fait que personne n'y arrive jamais à comprendre ce truc-là,
oui.
Et que le lien va d'aimer comme souvenir, qui devrait être compris assez vite. Et moi, dans 90% de mes tables, n'est pas compris en fait.
Ah ouais, c'est vrai ça. Vincent, tu confirmes ?
Ouais, je confirme totalement.
Moi, c'est marrant, c'est pas le cas. Mais
ouais, moi, ils comprennent pas.
Ça doit être biaisé parce que je dois donner des informations.
Exactement. Ouais. Et donc, en tant que MJ, j'en donne de plus en plus pour vraiment les orienter vers le fait que oui, souvenir et machin est orienté. Et là, en tant que joueur, moi qui le sais, je peux corriger éventuellement quand il y a des erreurs, genre attends, mais toi, tu te souviens de ma mère ? Non, moi, je me souviens que de ma mère. Toi, tu te souviens de ton père. Ou l'inverse, tu vois. Et d'ailleurs, je peux mettre de la signification. Genre, quand il y a les parents de Queen et King, je fais cambio et je sauve mon père. Parce que moi, j'ai un souvenir de mon père dans et pas de ma mère.
Ouais, d'accord. C'est génial.
Et moi,
là,
ça
vous allez dans des détails en fait dans lesquels vous pourriez pas aller si vous étiez uniquement en train de découvrir
le jeu.
Et
moi, en tant que master, ça me pousse Vincent. Aussi à chercher à le surprendre. Alors, tu me connais, je suis un peu un cabot. J'aime bien chambrer. Là, un truc tout bête, par exemple, mais j'ai un de mes anciens joueurs qui a joué l'informateur sur leur table, mais ils n'étaient pas au courant.
Voilà, sur Discord, il y a quelqu'un qui a débarqué et il y a la voix de The Lord qui n'était pas la même que la voix de Vincent.
Ça, c'est fun, ça. Ça, c'est
un peu tombé sur le cul, quoi.
Ah, tu m'étonnes.
Alors, c'est un détail, mais moi, ça m'a poussé à réfléchir le truc et à réenvisager ça et à voir comment je peux l'articuler, à faire attention à ce que l'autre donne les bonnes révélations par rapport à ma table. Et c'est un nouveau jeu pour moi aussi. Et tout le monde s'amuse. Par contre, je ne suis pas convaincu que ça fonctionnerait avec 3 joueurs sur 4 qui l'ont déjà joué.
Ah,
à tester. Hein.
À tester.
Ça deviendrait un vrai jeu en performance pour le coup. Et ça, des gens pourraient s'amuser, évidemment, mais ça serait
mais
autre chose.
Mais c'est plus vadémécom.
Oui.
Ouais, Paradox Story, j'imagine qu'il y en a 3, il y en a un seul qui découvre.
Non, mais je me pose des questions. La question de est-ce que vous jouez toujours à Vadémécom avec ce dispositif, moi je me la pose. À partir du moment où tu as un joueur qui connaît toutes les révélations et tous les secrets, est-ce que c'est toujours le même dispositif ? En tout cas, c'est clairement pas celui qui est proposé par la base. Là, on est quasiment, y a quasiment un MJPJ, tu vois, dans le truc. Vous jouez quasiment à table en double MJ, finalement, avec un qui a l'autorité d'un joueur. Non, t'es pas d'accord, Maxime ?
Non,
toi qui as fait de la table en double MJ en plus.
Non, parce que le double MJ, il y a le côté où on doit se mettre d'accord. Je me sens plutôt comme un PNJ, tu vois.
Ah, oui, ouais.
Je me sens, voilà. Je
MJ,
me sens...
PNJ. PJ-PNJ.
PJ-PNJ, ouais. Ou j'ai de la gentilité. C'est vraiment en GN, on a ça. On a des PNJ libres. Souvent, t'as les PJA, on appelle ça. Les personnages joueurs d'ambiance.
Comment tu dis PJA ?
Personnages joueurs d'ambiance. C'est pas un PNJ, parce qu'un PNJ, il est 100% au service de l'organisation. Et on lui dit, tu es tel personnage, tu vas faire ça. Alors qu'un PJA, il a un background, il a une histoire complète et il a une liberté d'action totale. Donc c'est comme un personnage joueur à ceci près qu'il n'a pas vraiment d'objectif et qu'il est là avant tout pour l'ambiance et qu'il est drivé par les orgas de manière sporadique. Et, son but, c'est de jouer pour les autres, en fait. D'accord. Mais avec un perso complexe. Ce serait comme si tu avais un PJ qui jouait Soren dans une table de sens, quoi.
Mais tu vois, jouer pour les autres dans le jeu en performance, c'est une des clauses aussi possibles. Alors, moi, je suis pas expert en jeu en performance, mais.
Moi non plus, hein, donc d'accord, c'est ouais. Comme ça. Mais mine de rien, ce que vous dites là, c'est intéressant parce que ça pose vraiment la question de ça nous invite à remettre en question un PJ, un PNJ, qu'est-ce que c'est et quelle est la frontière entre les deux. Parce que. Est-ce que c'est l'élément de surprise? Est-ce que c'est la convergence? C'est quoi en fait? Quelle est la frontière entre les deux? Parce que typiquement, moi je disais, j'en reparlerai après avec la fin de Vadémécom parce que j'y pense depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à rejoindre la. En fait, quand tu m'as dit, est-ce que tu pourrais rejoindre en tant que king, machin, parce que voilà, j'étais en mode, oh bah je suis tenté, j'avais envie de tenter l'expérience, et je l'ai abordé comme un PNJ, à 100% au début, avec ce que je savais de l'intrigue, etc. Et en fait, je pense que peu à peu. Au contact d'autres joueurs qui créent de la surprise et de la résistance et de toi aussi hein, évidemment parce que c'était pas il y avait des scènes que je connaissais pas etc donc il y avait quand même des moments c'est marrant où j'étais en mode en fait ce qui un truc un élément de tout con mais quand les autres joueurs à la table voyaient que moi j'avais vraiment peur ils se disaient oula Maxime il a fait un truc qui est pas prévu à la base et ils avaient encore plus peur tu vois des trucs comme ça mais le fond de ma pensée c'était que en fait je me suis retransformé en PJ au fur et à mesure. Parce que, je vais lancer cette porte-là maintenant.
Je pense.
King, de base, il a un côté, King en particulier, au niveau 8, il récupère la carte du sacrifice.
Voilà.
Et du coup, à ce moment-là, il a une démarche déjà. En fait, tu l'as déjà fait dans le jeu, mettre quelque chose d'un complice du MJ pour la mise en scène finale.
C'est pas faux.
Moi, je savais que j'aurais ce rôle-là, pas au niveau 8. Je le savais quand j'ai rejoint, bon, au niveau 6, mais bref, au milieu du truc. Donc du coup, j'ai pu... beaucoup plus longtemps à l'avance jouer avec cette scène là en tête qui est mythique et qui moi m'a beaucoup marqué quand j'ai joué en tant que queen donc j'ai eu l'autre côté du miroir et c'est vrai que moi la réflexion centrale qui m'intéressait c'était ce que j'ai vécu en tant que queen où j'ai vu le king se sacrifier qu'est-ce que ça donnera de le faire vivre à d'autres.
Ah là là.
Donc j'avais cette démarche là mais au début il y avait un côté un peu machiavélique, j'ai fait une scène d'introspection hyper réfléchie pour montrer un aspect du personnage un peu caché juste aux joueurs donc en dehors du dramatique, j'étais un peu grumpy, king pas content, j'ai dit à Queen ouais t'es un parasite de mes souvenirs des trucs comme ça et en fait peu à peu les joueurs à la table m'ont adouci King parce que j'ai créé un lien avec eux et donc à la fin j'étais vraiment émotionnellement impliqué par le fait de mourir, pas parce que j'étais en surprise ou quoi mais parce que j'étais en mode merde je leur fais subir ça. À eux qui sont à côté de moi en fait. Et donc il y a eu cette transition de PNJ outil à. Et du coup, sur le plan spécifique de je vais mourir et mes potes vont souffrir, mais c'est ce qu'il faut faire, j'étais quand même en convergence absolue avec King à ce moment-là. Et j'étais du coup un King moins lucide sur l'enquête. À la limite, je faisais exprès de me planter, il était passé sa vie à être en mode putain, mais j'ai mon instinct est trop pourri, tout va perdre à cause de moi. Enfin, les méchants vont gagner à cause de moi. Mais sur le plan cette fatalité, il avait une espèce de lucidité à long terme à base de... Il savait que ce que ça allait mal se finir, ou en tout cas, il l'envisageait plus tôt, quoi. Donc c'était assez intéressant, la fin, à ce niveau-là. C'était très cool.
C'est génial. Moi, alors, dans ce podcast, j'ai beaucoup de mal à intervenir parce que je suis à la fois juge et partie. Je suis aussi l'auteur du jeu dont vous êtes en train de parler. Et je me demande si... Moi, j'ai beaucoup avancé sur la question de la place de l'auteur par rapport à son jeu. Comme vous le savez, j'ai longtemps soutenu...
À une époque, tu nous aurais dit, vous ne jouez plus à Vadémécom, vous avez inventé votre jeu.
Je pense que je pourrais encore le dire. Seulement, maintenant, je suis OK avec ça. C'est la différence, c'est que je pense qu'effectivement, vous ne jouez pas à Vadémécom by the book.
T'as admis que toute personne qui, de base, joue ton jeu, en fait... joue à son Vadémécom.
Bah c'est ça, c'est un peu ça. L'idée c'est que si on devait faire un one shot sur Vadémécom, je serais un petit peu contrarié qu'on me dise pendant l'émission one shot que en fait l'un d'entre vous avait déjà joué au jeu avant, parce que j'estimerais qu'il y a une arnaque sur la marchandise. On dit à la personne on a joué à Vadémécom, mais en fait vous avez déjà rajouté une technique qui est tellement importante dans le déroulement de la partie qu'on peut plus vraiment dire que ce soit le Vadémécom tel que les gens qui vont acheter le jeu vont le jouer. Vous voyez la nuance?
Je vois, ouais.
Par contre, maintenant, j'assume beaucoup plus le fait que effectivement, les gens vont jouer à Vadémécom, vont rajouter des règles à Vadémécom. Qu'en fait, Vadémécom n'est pas parfait. En un sens, quand on vient de sortir un jeu, on a aussi beaucoup de difficultés à prendre du recul par rapport à ce jeu. On se dit que si on l'a édité, si on l'a publié et qu'on l'a fait imprimer en 200 exemplaires, c'est qu'a priori, on en est content et qu'on en est fier et qu'on a envie qu'il soit joué tel qu'il est écrit. Là, maintenant, j'ai plus de recul sur le jeu. Adrien, à travers Vadé Rétro, vous-même à travers les patchs de Vadémécom que vous avez pu faire, m'ont convaincu maintenant. Oui, Adrien est là.
Donc oui, d'ailleurs, je pourrais dire que j'ai aussi déjà rejoué Vadé Rétro et que c'est cool aussi, tu vois.
Alors oui, voilà, c'est ça. Mais alors là, tu passes au level 2. On en parlera après. Mais tu vois, vous m'avez tous convaincu qu'en gros, on pouvait prendre le matériel de Vadémécom et l'améliorer. Ou en un sens, l'adapter pour une table, pour un moment donné, pour vous, pour le mettre à votre main. C'est ce qu'on dit, mettre un jeu à sa main, une machine à sa main, la régler, faire des réglages. Moi, pour moi, c'est des réglages, tout ce dont on est en train de parler là. C'est pour ça que je suis partagé, parce que en même temps, je dis, ouais, vous ne jouez pas vraiment à Vadémécom.
C'est un gros engrenage quand même.
C'est ouais, ça. C'est du gros réglage, je suis d'accord. Mais en même temps, enfin, moi, j'aimerais. Enfin, je pense que vous jouez encore à Vadémécom dans la mesure où les personnages sont. Est-ce que. Enfin, les personnages sont là, mon écriture reste là, les scénarios, c'est quand même les
règles,
miens.
Les règles sont les mêmes.
Je veux dire, il y a quand même, voilà, les règles sont les mêmes, il y a quand même plus de 80% du truc. Je veux dire, vous avez. Et surtout, vous respectez l'esprit du jeu, qui est de mettre la musique, mettre l'ambiance, jouer des personnages dramatiques, on joue des flics, mais en même temps, on a des tas de problématiques existentielles sur la souffrance qui nous traverse. Et donc, vous êtes à fond dans le jeu, quelque part. Vous avez amélioré mon jeu, mais vous êtes toujours en train de jouer avec l'esprit sur les rails que j'avais.
Alors, moi, j'ai pas la prétention d'avoir amélioré ton jeu, parce que ce serait extrêmement prétentieux. Par contre,
non, moi je peux te le dire.
Quand tu parlais de tour de main, tu sais, c'est cette notion d'artisanat. Voilà, c'est ça. Je l'ai mis un petit peu à ma sauce. Pour moi, il me convient mieux comme ça. Sauce, oui, ça veut pas dire qu'il est meilleur.
Tu veux dire personnaliser au lieu d'améliorer.
Oui, enfin, c'est les réglages, oui, c'est ça, c'est ça. Mais il y a aussi autre chose. On sait qu'il y a certains personnages qui posent problème dans Vadémécom. Knight, en termes de jeu. Non, mais c'est vrai, en termes de jeu, le joueur souvent s'en lésait. Je suis sûr, mais certain, que sur la table actuelle, à la fin du scénar, j'aurai jamais un retour comme ça de Knight. Parce que Maxime est là aussi pour le mettre en lumière. Et cette histoire qui disait où Knight a fait preuve d'empathie et où il a été le chercher, Knight, c'est quelqu'un, comme on l'a dit, qui n'a jamais fait de jeu de rôle de sa vie. Qui découvre le jeu de rôle avec Vadémécom. Et Maxime fait tout ce qu'il faut pour l'emmener là où il faut et la mettre en lumière.
Bah toi aussi, par exemple, en la décrétant chef d'équipe.
Ouais.
Et après, j'ai insisté. J'ai insisté en bah non, King, Bishop, non. Je vais
vous
dire,
êtes trop impliqué.
Et surtout, je leur ai dit bah non, les consignes officielles, ça a été que c'est Knight la patronne. Ouais. Donc c'est Knight la patronne.
Mais moi, voilà. C'était pour ça que j'avais écrit ça. C'est ça aussi, c'est qu'en même temps que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'était pas attendu, vous retrouvez mon écriture. Et c'est ça qui m'étonne, en fait. C'est que finalement, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que vous l'avez amélioré. Parce que moi, c'était dans cet esprit-là, j'avais envie qu'on. Tu vois, c'était ces personnages-là que j'avais écrit.
Bah là, il y en a 2/5 autour de la table à avoir vraiment compris l'esprit, à avoir lu vraiment et à avoir joué plusieurs fois.
Ouais.
Et à savoir où tu voulais aller. Donc on est, c'est plus que l'EMJ. Il y a carrément quelqu'un au milieu des joueurs.
Voilà, c'est ça.
Qui peut réaiguiller légèrement. Quoi.
Tu vois, je peux dire dans la mesure où. Je peux dire que vous avez amélioré Vadémécom, dans la mesure où quand je regarde vos parties de Vadémécom, quand vous me racontez vos parties de Vadémécom, j'entends le témoignage des parties typiques et prototypiques que j'aurais souhaitées. Est-ce que tu vois le point, Vincent ?
Ah, moi, je le vois complètement, mais on a déjà parlé de ça, Rome. Tu sais que.
J'ai mis l'informateur qui attaque les PJ avec permis russe, ça va ou
Bah, ça va carrément. la faction, elle existe. Les factions, elles existent dans le jeu et c'est totalement crédible. C'est totalement une possibilité qu'il soit à ce moment-là allié à ces personnages.
En fait, on en a déjà parlé, mais dans un podcast précédent sur Vadémécom, sur le fait qu'il y avait peut-être un problème de transmission et que les gens qui l'ont joué avec toi arrivent à le transmettre.
Ouais, c'est ça.
Et moi, bah, j'ai découvert Vadémécom avec toi, dans des conditions particulières. Mais aujourd'hui.
Vous trois d'ailleurs, en fait, oui. Maintenant que j'y pense. Ouais.
Moi, j'ai plus appris en le faisant jouer en tant que MJ qu'en le jouant avec toi.
Okay, mais d'accord.
C'est là où j'en venais.
J'ai fait une version qui n'était pas définitive.
D'accord.
C'est là où j'en venais, c'est qu'aujourd'hui, je suis un bien meilleur maître du jeu de Vadémécom que la première fois que je l'ai maîtrisé. Ça peut paraître évident à tout le monde, mais sur un burst qui est fait pour bien prendre en main le MJ, etc., c'est pas si évident que ça, en réalité. Et c'est la preuve qu'il y a une... Il n'y a pas que la transmission, tu vois, et qu'on avait tort quand on disait que c'était toi qui l'avais transmis et que ton livre échouait. C'est que je l'ai beaucoup retravaillé et forcément, je l'ai amélioré à ma sauce. Mais après, j'ai quand même du respect pour ton travail, hein. C'est pas un secret.
En fait, la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est pourquoi vous avez eu envie de vous investir autant dans Vademecum ? Parce que pour vouloir rejouer, pour refaire des trucs, pour devenir aussi expert, pour faire 6 tables de Vademecum, qu'est-ce qui fait que ce jeu vous a accroché à ce point ?
Moi, je peux te répondre aussi. Alors, est-ce que c'est... C'est un peu blasé ce que je vais te dire. Je sais pas si c'est OK.
Non, mais vas-y. Hein.
C'est aussi juste l'occasion. Mais
c'est la vérité, dis juste la vérité.
C'est juste l'occasion. J'ai envie de jouer. Je fais avec ce que je peux. Voilà, je fais avec le marché, entre guillemets. C'est-à-dire que je tombe sur les gens sur qui je tombe. Je tombe avec les... Moi, en tant que joueur, je tombe sur les propositions sur lesquelles je tombe.
Ouais.
Et un peu, c'est le hasard, tu vois. Je joue à Among Us avec des gens. Il y a une personne dans le tas qui dit qu'elle veut faire le jeu de rôle. Vince dit, bah moi, je veux bien faire jouer Vademecum. Moi, je dis, ah, j'ai du temps en ce moment. Donc, let's go, quoi. Et je me laisse surprendre.
Il
n'y
a pas
vois.
Quelque chose de particulier qui te donne envie de retourner dans Vademecum.
Vraiment, là, c'est j'ai du temps, je me dis que pourquoi pas. Et au final, j'y prends mon pied, donc je suis content. Et après, il y a aussi le côté, je sais que ça va m'occuper quoi, 5-6 soirées. J'ai pas d'enfant, j'ai plein de temps libre en ce moment. Entre ça et passer ma vie sur des vidéos YouTube, je préfère ça, tu vois.
Vincent.
C'est triste, mais. Pourquoi
t'as envie de partager Vademecum ? Parce que toi, c'est souvent MJ quand même. T'as été rejoueur ?
Non, jamais.
T'as rerollé ?
Jamais.
Non, t'as toujours
par
été
contre,
MJ. Qu'est-ce qui te donne envie de transmettre ce jeu ?
Alors moi, j'ai voulu transmettre ce jeu. J'ai joué ce jeu à ma table sens. Tu sais que j'avais toute une théorie sur Vademecum, comme quoi c'était bien vrai. De le faire jouer entre mort et néant. Voilà. Ouais, je vais loin, tout le monde le sait ici.
C'est poussé, vraiment... Ah non, on stop, d'abord on fait autre chose, on fait un spin-off, puis on revient.
C'est ouais. Ça,
le relou.
C'est ça, mais j'ai été loin sur ma version online, sur une table. J'avais par exemple caché derrière la croix que je faisais apparaître sur l'échiquier, une croix de sens. Donc je vais loin dans mon affirmation que c'est lié.
Il y a
etc.
des symboles de sens dans Vademecum. Ne serait-ce que le logo du forum, tu vois, quand tu le regardes bien, tu vois la croix de sens. On va pas revenir sur les parallèles.
Vous voulez pas d'ailleurs faire jouer OPJ de sens Vademecum par Classis avant de jouer à Néant.
C'est vrai que j'y avais pensé. Après, c'est-à-dire que ça devient du triple. Là, ça devient compliqué. Là, en termes de miroir qui se regarde, ça devient.
Donc du coup, une des raisons aussi qui te font adhérer à Vademecum, c'est que c'est proche de sens.
Oui, et que j'avais envie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Vademecum. Il y a des gens à qui j'ai envie de transmettre ce plaisir.
Antoine,
je hochais la tête juste pour dire oui. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, hein.
Okay. Mais toi, c'est pareil. T'arrêtes pas d'y revenir à Vademecum. C'est étrange.
Bah, j'arrête pas. J'en parle beaucoup, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le mener, par exemple.
Ah
ouais. Non, pas encore. Bah avec notamment.
Toi, tu viens le défendre dans des podcasts.
Alors, il y a un truc
juste joué quoi.
Mais oui.
Ok.
Il y a un truc aussi,
après,
c'est que
je déconne.
Antoine, il l'a découvert avec ses meilleurs potes. Je l'ai fait jouer avec les potes avec qui il joue d'habitude. Donc j'imagine que ça doit être difficile à mener maintenant dans sa.
Bah, en fait, dans mes potes, j'ai la moitié avec qui t'as. Enfin, la moitié. Enfin bref, j'ai le groupe avec qui j'ai joué avec toi.
Ouais.
Et il y a l'autre groupe avec qui j'attends la bonne occasion, mais avec qui entre temps on devait finir Sens d'abord. Donc ça a pris beaucoup de temps.
D'accord.
Et après, on avait envie aussi de faire un peu une pause après Sens pour quelques temps. Puis il y a eu les problèmes sanitaires que vous connaissez. Donc forcément, ça décale les choses. Mais là, je sais que dès que ça s'améliore, le gros week-end. Et aussi parce que j'ai envie de le faire jouer en un week-end, j'ai pas envie de le faire jouer en épisodique,
ouais.
C'est sûr, donc du coup forcément j'attends l'occasion, mais je le ferai jouer avec grand plaisir, et donc c'est pour ça aussi que j'ai préparé et réfléchi à des améliorations pour le jeu, et parce que c'était un exercice très intéressant de game design à étudier et faire des retours dessus.
Moi je trouve aussi que Vademecum a cet avantage d'être entre le jeu de rôle et le jeu de plateau.
Alors voilà, ouais.
De l'ordre de, on peut, moi je le sors un peu comme je sortirais un gros jeu de plateau. C'est con, hein, parce qu'en vrai, c'est 5-6 séances d'investissement, normalement. Et bon, bah, pour le coup de la table d'Antoine, ça a plutôt été 2 ans avec un confinement au milieu,
ouais.
Et beaucoup, beaucoup de parties. Mais je le sors vraiment comme je sortirais un jeu de plateau, en mode, ça vous dit, on se fait un petit vademécum ?
Ouais.
Et certes, c'est un engagement sur 5-6 séances, je suis dans une phase de ma vie où je peux le faire. Surtout avec, là, Vincent, il a codé, enfin, il a récupéré le codage
voilà.
Sur Roll20,
qui
permet de se dire, hey, les gars, ça vous dit, pendant 5-6 semaines, vous vous bloquez votre jeudi soir. Et Et c'est parti, quoi, un peu comme... Un peu comme une campagne, alors qu'une campagne de jeu de rôle, déjà, il faudrait se créer son perso, il faudrait lire des règles,
oui.
Faudrait ceci. Là, je maîtrise. Moi, je rentre dans Vadémécom avec mes chaussons, quoi. Tu vois, c'est.
Tu seras bien le seul à dire ça, hein, parce que si tu parles de ça. Par exemple, Flavie, c'est un jeu qui glorifie Vadémécom à maîtriser.
Ah ouais,
ouais.
Ah bah
ouais,
maintenant,
ouais.
Au bout de 5-6 fois, j'avoue que j'y vais en mode pépouze du cul. 5-6 fois,
forcément, mais il y a des gens qui sont extrêmement effrayés par Vadémécom. Fabien Ilvine disait une fois que Vadémécom, c'était un jeu qu'il estimait que seul moi pouvait maîtriser, tu vois. Il avait même dit une théorie d'un sens qui disait que une des raisons pour laquelle le Classis clonait des Romaric Brillants, c'était pour découvrir Vadémécom. Souviens-toi, il en avait parlé dans la cellule.
Moi, je pense qu'il y a un truc très simple qui m'aide à faire ça, c'est que je l'ai fait jouer à des gens.
Ça lui fait peur.
Je l'ai fait jouer à des gens, il n'y a pas de vulgarité là, mais je l'ai fait jouer à des gens simplement, tu vois. Genre, je l'ai joué à des potes du boulot qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, je l'ai fait jouer à des élèves.
Ouais.
Je l'ai fait jouer en mode
moi,
détendu.
C'était comme ça que je voulais que les gens
sans attente, quoi. Ouais. Sans attente, donc en fait, les gens, ils vont kiffer quoi qu'il se passe.
Ça, c'était pas mon intention.
Je leur mets Schwarzenegger, ils rigolent.
Voilà. C'était mon intention, tu vois, aussi.
Alors que je suis plutôt un joueur en mode méga sérieux. Alors, parce que quand je le joue à table de Vincent, par contre, je le joue émotion et méga sérieux. Et quand je l'ai fait jouer à Céline, Lucas et Antoine, là, on était vraiment investissement émotionnel à fond et très sérieux. Et c'était pas le même jeu.
Mais tu vois, je voulais qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, quelque part. Que tu puisses avoir... Et c'est d'ailleurs ce qui a choqué Thomas B. dans son retour à Radio Rollist, à mon avis.
Moi, je casterai plus n'importe... Enfin, je fais attention quand même quand je caste mes tables. C'est-à-dire que... Les tables vont voir entre elles ce qui va se passer en termes de dynamique. Mais si quand je connais un peu les gens, je commence à savoir qui va plutôt jouer émotionnel et qui va plutôt jouer ludiste. Et j'arrive à sentir en avance s'il va y avoir des dysfonctionnements. D'ailleurs, c'est le cas un peu à notre table avec Vincent, où il y a un joueur qui est à côté parce qu'il n'arrive pas à rentrer dedans émotionnellement. Et il le dit lui-même, c'est ça le pire.
Oui, il le reconnaît, il en a totalement conscience. On a échangé là-dessus en PV. Il a dit « Ah, je vais essayer de m'améliorer parce que vraiment... » Si tu veux, il fait pas, c'est pas, tu vois, c'est pas une mauvaise volonté. Et il m'a dit, mais j'aimerais bien vraiment jouer au même jeu qu'eux, en fait.
Parce que ouais, le pote qui rejoue King et moi, tu nous lâches. On est en mode full émotion. On peut faire des scènes King et Queen non-stop, mais il faut qu'on intègre les autres. On a Knight qui est entre les deux, mais qui nous suit bien, et Bishop qui a vraiment du mal. Et moi, en tant que PJ infiltré, je suis quand même là pour tout le monde.
D'accord.
Et donc, je dois faire attention à ça.
Alors, il y a finalement, on ne parle que de Vadémécom pour l'instant. On va peut-être passer à d'autres thèmes et à d'autres jeux après.
J'en ai plusieurs, ouais.
Mais le Roll20 aussi, il faut en parler de ça. C'est-à-dire que là aussi, grosse surprise en tant qu'auteur du jeu. Moi, c'était le jeu que j'avais fait pour vraiment réunir les gens autour d'une table physique. Je ne m'attendais pas du tout avec le matériel qu'il y avait, avec l'importance qu'il y avait de donner à cet échiquier au centre de la table, que le jeu puisse connaître un tel succès en jeu de rôle virtuel.
Alors là, c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est Sherin Ford hein, qui a proposé absolument du matériel. Et puis là-dessus, il y a eu la crise Covid. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais le choix entre ne plus jouer ou jouer sur Roll20. Du coup, je me suis dit, bah, allez, on tente le coup. Et puis, le matériel qu'avait proposé Sherin Ford ne me convenait pas tout à fait, donc je l'ai un petit peu amélioré. Et puis, dans les joueurs à qui je l'ai fait jouer, il y en a un qui s'en est emparé et qui l'a encore un peu amélioré et qui me l'a redonné. Et aujourd'hui, sincèrement, je sais que tu ne vas pas aimer, hein, Rome, mais maîtriser Vadémécom, il y a quelque chose qui fait peur aux gens, c'est qu'il faut être un peu, et ça vient du jeu vidéo ce terme, mais il faut être un peu un poulpe. C'est un peu comme sur les RTS.
Oui, plein de bras.
Voilà, plein de bras. Ouais. Tu dois gérer la musique, tu dois gérer les cartes, tu dois surveiller tes joueurs, tu dois. Alors que via Roll20, bah, tout est automatique. C'est-à-dire que tout est fait en amont.
Ouais.
J'ai accès à tout. La musique, je m'en occupe plus. Je lance un échiquier, elle se lance. Mes échiquiers, ils sont déjà en place. Là, récemment, on a intégré les lumières dynamiques. Donc pour les scènes d'exploration, bah, les pièces, quand elles avancent, elles voient ce que verraient les joueurs.
Donc t'as même pas en tant que MJ à t'emmerder à mettre des dominos.
Ah, les échiquiers préexistent et c'est en fait c'est le brouillard de guerre, ce qu'on appelle exactement le brouillard de guerre. Qui...
Oui. Et les joueurs.
Mais tu vois, enfin,
ils se prennent plus la tête à faire des calculs.
Oui. Ouais, on clique sur
parce
une
qu'il y a des joueurs, ils cliquent sur une macro. Moi, toutes mes macros du scénario, enfin de la campagne, sont prêtes. Donc c'est tel joueur, hop, je clique sur attaque, je clique sur défense ou quoi. Oui, c'est plus ton jeu. Mais par contre, moi, je me concentre sur le bien-être de mes joueurs. Et mes joueurs, ils se concentrent sur l'enquête, sur le truc.
Mmh. Ouais, ça relâche le cerveau.
Quand tu dis c'est plus mon jeu, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à cette idée. Et oui, en un sens, je suis d'accord, c'est plus le dispositif qui est encouragé par le livre. Pour autant, si l'esprit est, les personnages sont respectés et tout, moi je valide. Si la partie elle est fonctionnelle, il y a no soucis. Une des raisons pour laquelle je soutenais cette histoire de c'est plus mon jeu, c'était pour en finir avec cette règle d'or qui disait rien à foutre des règles qui sont proposées par les auteurs. Maintenant que ça c'est ok, que les gens ils ont compris le message, qu'en fait bah, quand il y a des règles qui sont proposées, il faut au moins tester la première partie avec ces règles là pour savoir ce qu'on améliore, ce qu'on change, ce qu'on adapte en fonction évidemment de ses besoins, de sa table, etc. Ben, on n'a plus besoin de cette thèse forte comme tyrannique que l'auteur est le seul maître de ses parties et qu'on doit faire comme l'auteur il a dit, etc. C'est que ça, c'était une bannière politique qu'on mettait en avant pour casser une dynamique qui était réelle, qui était qu'en général, les gens prenaient des univers et ils plaquaient leur propre système qu'ils avaient créé et qu'ils utilisaient de toute éternité. Et donc c'était pour ça, en fait, qu'on a brandi l'importance des règles de l'auteur. Aujourd'hui, que cette idée est quand même battue en brèche, on n'a plus besoin d'être aussi vindicatif. Et d'ailleurs, dans Loli Rock, le jeu que je développe pour ma nièce Suzanne, eh bien, il y a une règle dans la base du jeu qui dit si vous avez des idées de cartes, si vous avez des ambiguïtés, des choses, des interprétations, choisissez celle qui vous convient le mieux. Faites au mieux, adaptez. Enfin, tu vois, j'encourage. C'est presque une nouvelle règle d'or qu'on peut. À partir du moment où on a cassé l'ancienne règle d'or, où on n'en a plus rien à foutre, on peut introduire une nouvelle type de règle d'or un peu plus fin qui est ben, une fois que vous avez saisi l'esprit dans lequel l'auteur avait écrit ses règles, vous pouvez faire vos propres réglages, adapter en fait, à mettre à votre main. Je ne vois pas d'autres.
Je pense que certains pourraient te répondre ouais, mais en vrai, on n'a pas besoin de ton autorisation.
Oui, oui, non, bien sûr. Non,
mais je comprends ce que tu veux dire, voilà. Dans le sens où.
Je t'explique les raisons de communication qui ont fait qu'à un moment donné, on avait besoin de thèses extrêmes et radicales. Voilà. On avait besoin d'une thèse radicale pour arrêter ces mauvaises pratiques.
T'as le droit en tant qu'auteur de dire moi ça me ferait plaisir d'eux en fait.
Me fait plaisir. Oui mais alors.
Non mais t'as le droit en tant qu'auteur de dire moi ça me ferait plaisir que les gens avant de trifouiller dans mon jeu vous essayiez au moins tel que je l'ai proposé.
Je viens de le dire là.
Voilà c'est ça. Non mais t'as le droit de le dire et les gens qui te diraient ouais c'est bon je fais ce que je veux avec ton jeu à un moment tu peux aussi leur dire oui enfin bon quoi. Mm. Si t'achètes un jeu pour pas jouer aux règles, juste achète pas le jeu, parfois j'ai envie de dire.
Bah oui,
dans un jeu de plateau, c'est inenvisageable. Mmh. C'est ça que j'aime bien avec Vadim Jakob, c'est inenvisageable de pas jouer les règles dans un jeu de plateau, sinon tu joues pas au jeu en fait.
Tu voulais ajouter quelque chose, Antoine ?
Moi, c'était plus éventuellement pour repartir sur le.
Oui.
Rejouer au jeu à
oui,
secret, etc.
Ouais, ouais. On va
parenthèse,
quitter Vadim Jakob
à la fin des parenthèses.
Passer,
ouais. Et du coup, moi, une des questions qui me venait en réfléchissant au podcast à la base, au-delà même de Vadim Jakob, alors j'ai pas d'autres exemples que Vadim Jakob pour le moment, mais je pense que cette expérience-là. Elle repose vachement la question du spoil, du divulgachi et de la gravité que ça a ou pas de connaître des éléments d'intrigue d'un jeu. Alors dans Vadémécom, on a parlé qu'il y avait l'enquête et l'intrigue spécifiquement. Il y a aussi les échiquiers et le ludisme.
Ouais.
C'est pas le même type de secret ou de divulgachi, mais c'est intéressant quand même de parler des deux. Mais en tout cas, ça pose la question dans d'autres types de jeux. Soit très enquête, très secret, soit juste un petit peu, à quel point c'est possible d'avoir des joueurs qui connaissent des éléments et en quoi ça modifie l'expérience de jeu beaucoup ou pas beaucoup.
L'horloge du diable, par exemple, c'est pas jouable, tu vois.
L'horloge du diable, bah théoriquement, tu pourrais dire, tu pourrais avoir un joueur, pareil, tu pourrais avoir un joueur à la table, tant qu'il y a un contrat où il n'est pas là pour tricher et faciliter l'enquête à fond, on sait pas, tu vois, c'est difficile à dire.
Faux. Même si je le verrais difficilement, là, pour le coup, vu qu'il y a l'enjeu du chrono, qu'il y a vraiment un côté. Le but, c'est de gagner.
Ouais.
Et tu peux vraiment perdre. Alors que dans Vadémécom, tu peux pas vraiment perdre.
Et là-dessus, j'ai une mini anecdote à la con à lancer en milieu de podcast pour ouvrir le truc. Alors
c'est carrément un autre sujet pour moi là.
Peut-être. Bah c'est.
Pour moi, ça devient un autre sujet, mais c'est intéressant.
Ouais, mais c'est quand même rejouer, enfin jouer en connaissant les secrets, rejouer. L'anecdote à la con qui j'ai vue il y a très longtemps et je n'ai pas la source, donc prendre avec un grain de sel. J'avais vu une étude sur les spoilers et leur c'était dans le contexte des romans,
ouais,
la littérature, et il y avait des études qui montraient que tu spoiles des lecteurs, tu le fais lire un bouquin ou ils les lisent en découvrant.
Oui.
Le
livre n'a pas le même effet sur eux.
Alors, en termes purs d'appréciation, le fait d'être spoilé, d'être gâché entièrement, plus souvent améliore leur expérience que ne la réduit.
Je suis tellement d'accord.
Ah ouais.
Je suis
alors moi, ça m'a choqué aussi personnellement dans ma pratique de.
Parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de livres que moi je lis et où je me dis, je lis pour aller chercher les secrets et du coup, je profite pas de l'expérience. Genre Game of Thrones, quand je le lisais, il y avait vraiment des moments où je faisais du turn pages jusqu'à découvrir ce qui va se passer.
Ah là là.
Alors que en m'étant spoilé pour certains moments par hasard sur une page internet et en sachant déjà, par exemple. On est quelques années après Game of Thrones, je peux spoiler ?
Oui, 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 je pense.
En
oui,
sachant déjà en avance que Jon Snow allait mourir, à un moment, je pouvais juste lire en profitant les moments de Jon Snow. J'étais pas à me dire, va-t-il survivre ? Je savais qu'à un moment, il allait claquer. Et en fait, par exemple, le bouquin 1, qui est quasiment copié-collé de la série, j'avais vu la série, donc je savais que Ned Stark mourait à la fin. J'ai pu juste le lire en profitant, et du coup, l'univers était beaucoup plus ancré en moi. Et de manière beaucoup plus intéressante parce que j'étais pas dans la recherche d'informations, mais dans le plaisir de l'écriture.
Vincent, tu disais c'est un principe de vademécum. Là, j'ai pas compris pourquoi t'as dit ça.
Parce que en fait, mais des jeux à secret en principe, tu l'as défendu un paquet de fois. C'est que dans un jeu à secret, il y a le plaisir de la découverte du secret, mais il y a aussi un plaisir de confirmation.
Ah oui.
J'ai découvert le secret et la suite vient me le confirmer. Et je pense que c'est un petit peu ça pour les livres. Et moi, enfin, je vous le dis fréquemment, quand je lis des livres d'enquête ou quoi, il m'arrive fréquemment de me spoiler volontairement pour prendre le temps de découvrir l'histoire. Exactement ce que vient d'expliquer Max, je plus sois totalement.
Antoine,
j'ai un autre exemple qui vient de me revenir sur le jeu de rôle. Et en fait, du coup, je réalise que j'avais déjà fait ça. Je crois que j'en ai un peu parlé, mais je suis même pas sûr, dans le podcast sur Hurlement. Quand on a fait la campagne d'Hurlement, moi, il y avait une grande part des secrets que je connaissais déjà. Parce que je m'étais intéressé au jeu et je l'avais lu, je l'avais trouvé les règles et j'avais lu le jeu et j'avais lu l'intégralité quasiment des secrets. J'en avais oublié un tiers avant de rejouer et j'avais demandé à Adrien quand on l'avait fait, est-ce que tu penses que ça pose un problème ou pas ? Et c'est vrai que dans les je ne me semble pas que j'en avais beaucoup parlé parce que dans le podcast, mais par rapport à d'autres joueurs qui où l'attente des secrets, la crispation autour des secrets pouvait les créer une certaine forme de ressenti, mais les empêcher de se concentrer sur d'autres. Moi, vis-à-vis des secrets, j'étais hyper détendu. Et c'est notamment pour ça que c'est dans cette campagne de Hurlement que, personnellement, j'ai commencé à découvrir C'est peut-être pour ça que j'étais assez... je pense que par rapport à la démarche de Valentin qui a commencé à terroriser un petit peu le bac à sable du quotidien à ce moment-là, j'étais pas aussi radical que lui, mais j'avais aussi une certaine détente par rapport aux secrets, aux enjeux métaphysiques. Lui, il s'en foutait parce que ça l'intéressait pas, et moi, je les connaissais. Et du coup, j'étais plus juste dans l'authenticité du personnage, dans les relations, etc. Et donc, en fait, avant Vademécum, je viens de m'en rappeler, mais dans Hurlement déjà, j'expérimentais un petit peu ça. Mmh. Et du coup, c'était très intéressant dans ce que ça créait aussi. Ça parasite un enjeu, mais ça a un peu en encouragé d'autres. C'est clairement pas systématiquement un problème, quoi.
Mmh. Alors, est-ce que vous Alors, par exemple, je suis désolé, je vous pose des questions qui concernent mes soupes, mais vous rejoueriez à Sens ?
Bah, Morgane l'a fait, par exemple, ou alors qu'elle était MJ, sur notre première table où on était double MJ. La table s'est terminée, moi j'ai refait une table en tant que MJ seul, et elle a rejoint cette table.
Elle en tant que joueuse ?
En tant que joueuse, alors qu'elle avait lu tous les bouquins. Et elle a joué, et elle a kiffé, en fait, elle pouvait juste profiter de l'univers des PJ, des PNJ, et de voir ce que moi j'en faisais avec elle, et on a pu, on a fait des soirées de RP solo même, donc où je jouais les PNJ qu'elle allait voir, on faisait du scénar solo alors qu'elle les connaît tous, hein, qu'elle connaît leurs secrets, mais elle kiffait. Et même le moment où elle a su qu'elle allait à un moment, elle quittait la table parce que c'était le moment où elle déménageait, elle allait dans la région où on est aujourd'hui. On a fait quitter son personnage de la table de manière cool dans l'histoire et sans qu'elle soit frustrée parce qu'en fait elle connaissait déjà l'histoire, elle savait qu'au pire son PJ reviendrait en PNJ beaucoup plus tard, mais elle savait, vu qu'elle avait déjà les secrets du jeu, c'était pas un deuil difficile pour elle.
Et donc ça elle a pu soigner la fin de son personnage.
Et ça voulait pas dire la fin, voilà. Et ça voulait pas dire la fin de la table.
Alors est-ce qu'il y a pas aussi le plaisir de se donner en spectacle à une table? C'est-à-dire que là, tu vois, toi tu connais les secrets, les autres joueurs ne les connaissent pas, et donc du coup ça te, tu vois, ça t'invite à une espèce de performance d'être le meilleur joueur de sens possible, d'être un guide, de montrer aux autres comment il faudrait jouer à sens dans une.
Ok, c'est quoi un bon joueur de sens? C'est quoi un meilleur joueur de sens? Pas un bon joueur.
Ok.
Il y a juste un plaisir de performance.
Merci Vincent.
Voilà. Non mais
c'est tout pour moi. Au revoir.
Dans le sens où je suis d'accord qu'il y a un plaisir de performance, mais pas dans le sens être meilleur que ou plus bon que. Il y a juste un plaisir à performer.
Performer, voilà.
Ouais. Et à juste se dire j'aime faire ça, tu vois.
Mais alors attends.
Je vais pas faire de comparaison avec le sexe, mais c'est un classique, quoi. Tu peux. T'as pas besoin de performer pour avoir plaisir à le faire, quoi.
Bien sûr, évidemment.
Ah d'accord, les spectateurs de loin réagissent dès qu'il y a des mots clés qui sortent. D'accord.
On sait que ça les fait réagir, ce genre de mots. Hein. Moi, relativiser le secret, le spoil. Alors, est-ce que ça vaut le coup de définir ces jeux comme des jeux à secret? Après ce podcast, j'en suis plus très bien sûr.
Bien sûr, l'expérience de base, elle est quand même là-dedans. Et ça indique quand même des structures narratives, des dynamiques pour les personnages. C'est pas la même chose de jouer à un jeu qu'on connaît où il n'y a rien à spoiler et de jouer à un jeu où on connaît les secrets. Le personnage est quand même en enquête, donc il y a de l'ironie dramatique, il y a d'autres choses.
Tu pourrais dire, voilà, c'est un jeu avec des informations cachées, mm-hmm, où certains joueurs ont d'autres types d'informations, etc. Enfin, tu vois, est-ce que le mot, c'est ça, est-ce que jeu à secret, tu vois, le mot secret, parce que.
Le jeu, que tu vois la différence. Le jeu, si c'est écrit comme ça, mais pour le joueur qui rejoue, c'est plus un jeu à secret, oui. Mais pour les autres autour de la table, oui. Et encore, comme disait Antoine, t'es face quand même à d'autres joueurs qui, la façon dont ils vont jouer leur personnage reste un secret pour toi. Ce que le MJ va rajouter de sa propre sauce est un secret pour toi. Genre, je pense que Antoine pourra le dire, quand il a joué King, il savait pas jusqu'au bout est-ce qu'il était obligé de se sacrifier ou pas.
Alors, si pour moi, oui, en fait. Moi, j'étais en mode je respecte les règles, je fais le truc et j'avais prévu ça tout du long. Quand tu m'as dit après coup, oh, en vrai, si t'avais voulu survivre, je t'aurais laissé faire, j'étais en mode quoi? Donc ouais. Là-dessus, non, mais c'est un détail. Sur le reste, ouais. C'est.
T'as jamais l'intégralité des infos, en fait.
Oui.
Tu peux avoir l'intégralité des secrets du jeu.
Tant que c'est pas un jeu à secret solo, déjà, dans un jeu à secret, l'expérience de jeu, c'est pas juste t'as 3-4 joueurs qui découvrent des secrets ensemble et qui réfléchissent dans leur coin. C'est le maelstrom qui en découle.
Bien sûr.
Un maelstrom d'enquête, etc. Donc, le maelstrom individuel face au secret, il est différent. Mais t'as quand même un maelstrom de personnages qui découvrent des secrets. Donc la fiction est toujours une fiction à secret. En fait, si c'était jeu à enquête qui suppose une action, on pourrait changer le terme. Jeu à secret, c'est moins choquant parce que ça décrit pas tant une action des protagonistes, mais un état de fait. Ou voilà quoi.
C'est-à-dire que moi, on en parlait même avec mon copain qui joue King sur Vadémécom pour la deuxième fois, mais qui ne l'avait pas fini la première fois et qui a une mémoire de poisson rouge. Et là, un autre avantage, c'est que quand je parlais aux copains, je disais, vous vous souvenez, Sans, c'est la seule table que j'ai eue qui l'a fini. Donc, au bout de 3 ans et demi, 4 ans de campagne, quand j'en disais, et les deux étaient là, genre, putain, même en sachant tout aujourd'hui, je serais franchement super chaud à l'idée de leur jouer.
Moi, je rêve de jouer à Sens. Hein. J'ai jamais eu l'occasion d'être joueur à Sens.
Oui, moi, c'est une des grandes frustrations en tant que meneur. Je pense que là, vu la longueur, etc., ça serait quand même pas forcément. En fait, c'est plutôt j'aurais très envie de le faire, mais j'aurais plus envie de prendre le temps que ça prend pour faire d'autres choses. Mais par exemple, beaucoup de gens ont rejoué à Sens Néant techniquement, lequel c'est plus facile, en mettant moins l'accent sur les secrets de la campagne principale. Vrai. Mais t'as quand même plein d'éléments où quand tu joues un Setra en connaissant tous les secrets, t'as pas la même vision de l'univers. Et jouer, moi, je le lance officiellement. Si l'un de vous me dit après-demain, tu veux faire un one shot ou 3 parties de Sens Néant et jouer un Setra, moi, je suis chaud, quoi. Enfin, même pas un Setra, tu me fais jouer. Moi, je te dis, je te crée un perso, un myriadien, je suis trop partant.
Il y a quelque chose. Je peux pas vous dire le contraire. Je suis hyper sur le cul, en fait. Il y a quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'intérêt de ces jeux, et je vais même te dire un truc, c'était un argument commercial.
C'est-à-dire que c'est pas le seul.
Non, mais d'accord. Non, mais attends. Le fait que tu dises, quand la première fois que j'ai dû présenter Sens sur des conventions, et peut-être à certains d'entre vous que j'ai rencontrés à l'occasion, j'ai dit toujours, c'est une campagne, il y a un début, il y a une fin. Et pour moi, ça, c'était vraiment un argument convaincant dans la mesure où je connais tellement de jeux de rôle qui commencent des campagnes, qui te promettent monts et merveilles, et au final, tu n'as jamais la fin parce que l'auteur, entre-temps, il n'a pas eu les droits de ceci, il y a eu des histoires de droits entre les éditeurs. Ça ne se vendait plus suffisamment, donc la campagne,
c'est fini. Référence à l'actualité, fortuite.
Évidemment. Et donc, du coup... Voilà, pas de fin de campagne, pas de... Donc l'idée de dire à quelqu'un, il y a un début, il y a une fin, que c'est un jeu, on n'y joue qu'une fois, ça je l'ai aussi dit souvent, pour moi c'est un argument parce qu'il y a trop de gens qui se perdent dans un jeu de rôle, en croyant d'ailleurs que c'est le jeu de rôle. Et l'idée de présenter son jeu comme un jeu de rôle fini, ça dit aussi, il y a de la place pour les copains. Il y a d'autres jeux de rôle. C'est une fois que vous aurez fini Sens, ou si vous avez joué à Sens, vous pourrez jouer à d'autres jeux qui eux aussi pourront, etc. C'est, vous voyez la différence. Et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est on y rejouerait bien, quoi. Et il y a quelque chose qui me perturbe là-dedans.
Mais tu parles de
plusieurs trucs différents. Je me sens flatté, en même temps, ça me fait un peu peur.
C'est pas exactement la même chose que les secrets, ce dont tu parles, le côté...
rejouabilité.
On n'y joue qu'une fois. Alors, c'est pour toi, c'est lié au secret, parce que l'idée, ça n'avait pas d'intérêt en soi de jouer si on connaissait déjà. Mais dans l'absolu, tu peux envisager de rejouer un jeu qui n'aurait pas de début ou de fin, qui serait quand même un jeu à secret, dans le sens où c'est plutôt des secrets un peu libre, mais où il y a pas de scénario avec une fin. On pourrait quand même parler de ça. Donc le sens, là, il y a plusieurs éléments de sens qui sont différents là-dedans. Après, le fait qu'on envisage de rejouer, ça montre bien que la démarche que ça encourage, c'est l'idée de dire, je vais jouer à un jeu, puis un autre, et pourquoi pas rejouer à celui-là, puis un autre. En fait, c'est quand même dans la logique du. Si tu te perdais dans un jeu, tu pourrais pas te poser la question de rejouer au même.
C'est ça, on se dit pas, on va jouer à Sens toute notre vie et c'est terminé.
C'est différent de ne jouer qu'à Sens et jouer à Sens un jour,
très, très bien.
Puis rejouer à Sens avec d'autres personnes dans le même
contexte.
Et je reviens à l'idée de, c'est les joueurs avec toi. Moi, j'ai pas rejoué. Si jamais j'avais dit est-ce qu'on rejoue à Vadémécom ou je rejoue Queen, tu es le MJ et on a les mêmes joueurs, ce serait particulier. J'ai rejoué à Vadémécom avec d'autres joueurs, donc je n'ai pas fait tourner en boucle.
Et moi à la fin, j'ai vraiment eu le plaisir. Moi j'ai incarné les 4 personnages quasiment de Vadémécom.
C'est génial.
Et c'est con, mais à chaque fois.
T'as pas incarné le perso caché, la classe bonus. Non, t'as pas trop. Bon, tant pis.
J'ai joué Bishop. Puis sur Vadé Rétro, j'ai joué King, qui est quand même très proche de son père quand même. Ouais. C'était,
T'as joué les 5 personnages de Vadé Mécom.
Oui.
T'as même joué 6 si on compte le Lord.
Parce que j'ai joué Knight de Vadé Rétro ensuite sur une table de Vincent. Puis j'ai joué Queen de Vadé Mécom. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est en jouant Knight et déjà sur Vadé Rétro en rejoint, c'est là que j'ai pris le plus de plaisir parce que le personnage de Vadé Rétro de Knight est génial et j'avais un plaisir fou à rendre fou les autres joueurs sur la table qui ne savaient plus comment se positionner. Et là, en rejouant Queen, je découvre encore des choses. Je me dis, mais c'est ouf, quoi. C'est le seul personnage que je n'avais pas encore joué. Et je découvre comment j'ai envie de le jouer dans ce cadre-là, avec ces gens-là.
Vincent, t'as tiqué quand je parlais de revoir le film.
Mais bah oui, en fait, il y a un exemple qui me vient en tête. Usual
Fight
Suspect.
Club. Ah, Fight Club, c'est pareil.
C'est le même ressort. C'est des films que tu vois plusieurs fois. C'est pas le même plaisir, c'est pas la même expérience, mais elles sont liées. Et Usual Suspect, moi je me suis amusé à le voir jusqu'à trouver la faille dans l'histoire. Et elle est présente.
Il y en a une ?
Oui, il y en a une.
Il y a une incohérence.
Ouais, il y a une incohérence.
Il y a une incohérence.
Elle est light, hein. J'ai mis 14 ou 15 fois à la trouver. Mais
Fight Club... Tu trouveras les incohérences de sens au bout de 14 fois la campagne.
Ah non, deux
Fight
fois
Club,
ça suffit. Hein.
Fight Club, je l'ai vu 3 fois au cinéma. D'accord ? J'ai découvert des trucs en le voyant une 5e fois, parce que je l'avais revu à la télé entre-temps, en DVD. Pourquoi ? Parce que la qualité de l'image... Non, la qualité de l'image ayant augmenté, j'ai vu certaines images subliminales que je n'avais pas vues au cinéma.
T'as vu la bite ?
J'ai vu la bite. J'ai vu aussi Brad Pitt dans les 5 premières minutes du film.
Ouais, il est dès le début.
Ouais.
Voilà.
C'est tout con, mais... Okay.
Alors non, c'est pas le même plaisir que la découverte. Mais c'est un plaisir réel certains, et je regarde toujours le même film. Et ça m'empêche pas d'aller voir d'autres films.
Mais avec la même bobine, quoi.
Je pensais que tu pensais à autre chose.
De quoi ?
Je sais pas, je m'attendais à ce que tu dises un truc du genre « Oui, c'est vrai que c'est pas le même plaisir quand on découvre la bite. »
Bah, si je devais continuer ma métaphore filée, la découverte du jeu à secret, c'est les premières fois avec, avec une personne, et puis ça reste bien de continuer de le refaire. C'est
d'approfondir pas,
c'est,
la
d'approfondir,
relation.
D'approfondir, c'est différent, c'est juste que...
C'est le moment où on dit titre, non ?
Alors, bah, oui.
Maintenant, peut-être... aborder une autre question, parce qu'on a parlé de sens de Vademecum, donc de mes productions, et voilà, c'est en même temps, c'était un podcast thématique sur tous ces jeux, donc c'est
logique. Sens Vademecum, Vaderetro, et on a
quel autre jeu à secret ? Alors, t'as parlé un petit peu de Hurlement, toi, Antoine ?
Oui, mais j'avais pas grand-chose à ajouter, c'était juste parce que c'était quelque chose que j'avais pas développé dans le podcast originel et qui m'était venu comme ça, après, je sais pas si on peut...
Est-ce que vous avez d'autres expériences de jeux à secret ?
J'avais une idée complètement conne qui m'est venue à l'instant, c'est qu'on pourrait faire un crash test du concept maintenant. Je raconte une blague, on attend 20 secondes, et je la re-raconte alors que vous connaissez la chute, et on voit ce que c'est.
Ça s'appelle, le comique de répétition.
Je sais pas, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, le comique de répétition. Bah, tu vois, le comique de répétition.
Bah, tu vois, le comique de répétition.
Bah, tu vois, le comique de répétition.
Non, mais c'est ça, le comique de répétition. Non,
mais... Et on rigole, tu vois, et on rigole comme des cons.
Et on rigole comme des cons. Bah, alors c'est le, enfin je sais pas, le tragique de répétition, le suspense de répétition, pourquoi pas.
Mais je le répète, je vous repose ma question. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels vous pensiez ou c'est que
moi je pense aussi que autant comme disais tout à l'heure, t'as vendu ton.
C'est important parce que.
Ouais, j'ai pas de réponse, mais ce que je voulais développer parce que tout à l'heure tu disais oui, moi j'ai vendu comme un jeu qu'on joue qu'une fois, comme un jeu à secret. Et je pense que s'il y a autant de gens qui kiffent autant des jeux, c'est parce que t'as un vrai talent à écrire des univers, des PNJ et des personnages qu'on a envie d'incarner. Et ça, en plus, c'est facile, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, contrairement à Sens, où c'est plus long de créer un personnage, c'est compliqué, Vademecum, tu files une fiche, quoi, à quelqu'un. Let's go. Et en plus, toi, tu sais, moi, je sais qu'en tant qu'MJ, que c'est pas un one-shot pourri. C'est un peu comme en GN, quoi. Mais ouais. Avec beaucoup moins d'emmerde.
J'ai demandé, parce qu'en GN, souvent, on joue qu'une fois.
Souvent, on joue qu'une fois.
Sauf toi qui aime bien rejouer.
Sauf moi qui aime bien réorganiser des GN et qui aurait plaisir aujourd'hui, par exemple, le Shadow Island.
Il faudrait qu'on le fasse.
Il faudrait qu'on fasse, oui. Qu'il faudrait qu'on
c'est
fasse.
Vrai que ça fait un moment que tu nous en parles.
D'ailleurs, non, j'allais te demander, blague à part, Romaric, sans spoiler dans ce podcast, a joué un perso dans le Shadow Island qui avait une bonne partie des secrets.
Oui, tout à fait.
Quasiment tous. Ouais. Et est-ce que pour autant c'était déplaisant ?
Non, parce que effectivement, le fait d'être dépositaire de certains secrets, pas tous, ça fait que tu as un pouvoir effectivement d'animation. Mais je me voyais un peu comme un co-MJ. Finalement, comment t'as dit là ?
Un PJA.
Un PJA, ouais.
Un PJ d'ambiance.
C'est
quoi.
Ça, un PJ d'ambiance, exactement.
Et comme quoi, ouais, en GN, ouais. Moi, est-ce que j'ai déjà rejoué des GN ? J'aimerais bien, en vrai, par exemple, Braquage, moi j'aimerais bien le rejouer.
Mais c'est théoriquement, c'est possible, alors qu'il y a des secrets. Oui, il y a des secrets en un sens, c'est pas forcément
central.
Donc
j'ai vu
mais...
tous les embranchements, moi.
Oui, mais même.
Les jeux vidéo, pareil, les jeux vidéo scriptés à secret, on prend plaisir à les rejouer. Parce que la diversité de plaisir obtenable dans un jeu n'est pas uniquement liée au secret. Je pense que les jeux donc, qu'on a évoqués, Vademecum, Sens.
Je suis surpris que ce soit que de mes jeux. Alors, il y a Hurlement aussi, c'est vrai. Mais
parce qu'on est un peu fanatisé aussi, on va pas se mentir. Mais
d'accord. Il y a un biais de sélection, mais c'est théoriquement possible de n'importe où, hein, clairement. Okay,
ouais. C'est théoriquement possible.
Moi, clairement, là, il y a un jeu. Alors, c'est pas vraiment un jeu à secret, mais c'est un jeu qui contient beaucoup de secrets qui ressort. J'avais pris beaucoup de plaisir avec un système qui était pourtant tout moisi, c'était Hawkmoon. J'ai vu que Hawkmoon allait ressortir, j'ai pas regardé ce que c'était comme système ou quoi.
Ouais.
C'est un jeu, j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans. Pourtant, les secrets, je les connais, etc. Je connais plein de choses, mais j'ai envie de me replonger là-dedans. C'est un plaisir différent, mais ça reste un plaisir.
Moi, il y a vraiment des GN où je me dis a posteriori, j'ai passé un mauvais GN et je m'amuserais vachement plus maintenant que je connais les secrets et que je pourrais juste prendre plaisir à incarner mon personnage. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que le système en GN et qu'il y a une tension, en tout cas dans les gros jeux, il y a plus de gens qui veulent le jouer que de sessions, donc évidemment qu'on ne va pas faire rejouer quelqu'un. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense, qu'il y a autant de gens qui veulent faire PNJ sur un GN qu'ils ont aimé. Ils veulent revenir dans cette ambiance, ils veulent revoir ça.
Ouais, moi... En ce moment, avec Flavie, on est en train de se dire qu'on a envie de rejouer à Vademecum suite à toutes les conversations qu'on a eues. Mais juste, moi, j'ai envie d'y rejouer juste pour revoir le film.
Eh, hey, mais tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Hein.
C'est pas grave.
On s'organise une partie tout le temps.
Ouais, ouais, mais vous remaîtrisez Vadémécom, pourquoi pas, quoi, tu vois. Mais alors là, du coup, il n'y aura que des gens qui connaissent, c'est un peu bizarre.
Ah, on peut tester aussi, hein.
Ouais. Bon, avis, vu les scènes en plus que j'ai rajouté, je suis capable de te surprendre.
Ouais, ça marche. Je pense que tu serais capable. Ben, merci en tout cas. Moi, en tout cas, à titre personnel, ça me fait tout bizarre parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que tout ça soit possible, en fait, tout simplement. Donc, comme je le dis, il y a toujours plus dans un jeu que ce que l'auteur y met, évidemment. Mais là, ce qui est marrant, c'est que ça va contre mon intuition de départ. Si j'avais su ça, en fait, je pense que j'aurais playtesté mon propre jeu. Tu vois ? Et donc, du coup, ça aurait peut-être donné un jeu différent, pour le coup.
Bah, tu n'aurais pas pu le playtester vraiment dans jusqu'au bout de... En fait, tu aurais pu playtester certains aspects, mais tu n'aurais pas pu playtester ce que ça fait de découvrir l'intrigue, en cours, etc. Mais tu aurais pu playtester l'échiquier, tu aurais pu playtester plein de trucs quand même.
Et du coup...
Est-ce que tu aurais pu prendre plaisir, toi ? Parce que je pense qu'il y a vraiment une typologie du joueur. Il y a des gens, vraiment, je ne leur ferais pas rejouer, quoi. Il y a des gens, c'est évident... qui dirait...
Ah, on n'a pas parlé de ça non plus, mais...
Moi, je pense que des gens comme Antoine, que j'ai fait rejouer, ou des gens comme moi, ou des gens comme mon pote, il y a le côté... Il y a des gens qui sont des performeurs, performeuses, tu vois. Je ne sais pas s'il y a une théorie qui a été faite là-dessus, mais sur les gens qui aiment jouer pour le spectacle.
Bah, le jeu en performance, c'était quand même un peu lié.
Voilà, bah, ça peut être ça. Donc, il faut des joueurs et joueuses qui aiment ça. Moi, il y a des tas de gens, je ne leur ferais pas rejouer, quoi. Parce que, même s'ils me le demandaient, quoi, parce que je les ai vus jouer une fois...
Ça suffit,
c'était bien.
Dans le jeu de rôle en performance, c'est pas le spectacle, mais c'est la performance artistique au sens. Parce que dans le spectacle, il y a le côté, il y a un public.
Bah moi, il y a
là,
ça.
Là, c'est se faire plaisir.
Moi, en tant que MJ, si je devais faire rejouer le jeu à quelqu'un, il faudrait que je me dise, il va y avoir du spectacle. En prenant Antoine en tant que King, je savais que j'aurais du spectacle. Tu vois, plutôt que d'aller chercher quelqu'un, et puis en plus, qu'il y avait déjà une complicité installée avec Céline parce qu'il la connaît. Et que avec Lucas, j'avais pas trop de doute que ça se passe bien.
Juste une question, si vous avez déjà joué deux fois le même perso sur une table de Vadémécom différente, ou est-ce que vous avez à chaque fois tourné des personnages?
Ah non, tant qu'à faire, si on avait le choix, autant changer. C'était plus. Moi, c'est vrai que tu m'aurais dit, tu veux rejouer Queen, ça m'aurait pas intéressé.
Voilà. Et c'est là que
dans Vadémécom, il y a l'idée de.
Parce que Flavie, elle avait justement envie de soutenir dans ce podcast parce que elle a joué beaucoup Queen.
Ouais, plusieurs fois.
Et qu'à chaque fois, elle disait, c'était toujours une queen différente.
Ah, c'est marrant.
Mais
ça.
Parce que Queen, elle est pensée comme
ça. C'est un livre blanc.
C'est plus facile pour Queen, ouais.
C'est un livre blanc.
Même si Bishop, je le rejouerai aujourd'hui en connaissant les secrets. Je sais pas si je pourrais le rejouer plusieurs fois en connaissant les secrets. Mais après l'avoir joué sur ta table, je rejouerai Bishop aujourd'hui. Je pense que je le rejouerai différemment. Par contre, je pense que je le jouerai pas sur 10 séances, tu vois. Je dirais, allez, 4-5 séances max et let's go, quoi.
On le rush, ouais.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, ces précisions sur les rejouer avec des jeux à secret.
J'ai comme la sensation d'oublier quelque chose, mais
c'est possible.
Podcast bombe.
C'est la bombe dans le podcast. Merci beaucoup à vous. Merci Antoine. Merci Vincent. Merci Maxime. À très bientôt.
Merci à toi.
Tout le monde.
Salut.
Portez-vous bien et surtout jouez bien.
Bisous.